troisième émission dans cette thématique hors les murs sur les 3-8, une petite heure où l'on va parler de murs qui enferment, qui excluent, mais aussi de murs qui protègent. Nos invités sont Jean-Pierre Mouler, qui est directeur de projet des actions artistiques au Merlan, scène nationale, Sophie Catala, qui est ex-administratrice de l'épicerie et qui a écrit récemment un mémoire hors les murs, Yves Fravega, qui est metteur en scène, fondateur de la compagnie L'Art de Vivre et qu'on a entendu il y a quelques semaines sur les ondes de Radio Grenouille pour parler un peu de la situation du comptoir Sainte-Victorine, si vous vous souvenez. Hendrik Sturm, qui est sculpteur, professeur aux Beaux-Arts de Toulon et promeneur. Et Emmanuel Vergès, qui est responsable de ZincECM, qui est l'espace culture multimédia qui se trouve à la Friche. Il devait y avoir avec nous Serge Beauté, adjoint délégué à la culture, mais malheureusement, son chauffeur a eu un accident et il ne peut pas nous rejoindre. Donc, pour commencer, je vais poser une question à ceux qui sont là, que je comptais poser à Serge Beauté, mais voir comment ceux qui sont là vont réagir à ça. Donc, je reprends la liste, en fait, que le comptoir avait établi au moment de son de la vente de ce lieu du propriétaire, le projet de vente à Kaufmann & Broad. Le comptoir avait monté une mobilisation. Et ils avaient fait une liste dans laquelle ils signalaient que l'usine Corot, le théâtre de la Minoterie, le studio du Cirque de Marseille, la caserne Mirabeau, le studio du Cours, les cartoons Sardines, le CIPM étaient sur la sellette également, tous ces lieux-là. C'est-à-dire que soit les lieux étaient vendus à des promoteurs, soit on demande gentiment aux gens de partir, comme au CIPM, sans évidemment trouver de lieu de remplacement. On peut rajouter à cette liste le cinéma Le Miroir, qui ne fonctionne plus depuis 3 mois. On peut rajouter la galerie d'art contemporain du château de Servières, qui est SDF depuis bientôt 1 an. On peut rajouter récemment le festival Mars Attack, qui a appris qu'il ne pouvait pas avoir le J4 en septembre prochain pour cause du coupe de monde du rugby. Et on pourrait rajouter à cette liste les 6 centres sociaux sur 16 qui ont fermé dans les quartiers nord de Marseille. On peut aussi rajouter dans cette liste les classes à Pâques qui ne fonctionnent plus depuis des années dans les écoles. Les artistes sont fait virer des écoles aussi. Bref, je voulais savoir quel était votre point de vue sur cette situation. Je ne parle pas de réseau éducation sans frontières, je ne parle pas des enfants de Don Quichotte, je ne parle pas de tout ça. On a l'impression que la machine à exclure de la société fonctionne à plein en ce moment, que ce soit vis-à-vis des artistes, en tout cas vis-à-vis des populations les plus fragiles et les moins... les moins dans le moule. Donc, quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette situation? Peut-être Yves, pour commencer, puisque tu étais sur la ligne de front il n'y a pas très longtemps, et puis tu y es encore un peu maintenant.
La liste est tellement longue, il y en avait que je ne connaissais pas. Je ne sais pas quoi. Après, de dire que je ne peux pas me comparer à un SDF, il ne faut pas exagérer. Je crois qu'on a quand même des manières de vivre. On a fait des choix de vie qui ne veulent pas dire qu'on a décidé d'être pauvre non plus. C'est un petit peu, on est un peu entre les deux, quoi. On a fait des choix de vie où, effectivement, être riche, si on avait voulu être riche, on n'aurait sans doute pas voulu, on ne se serait pas engagé dans ces activités-là. Mais, alors après... De savoir pourquoi ça se passe comme ça à Marseille, c'est dommage que Serge Beauté soit pas là pour nous l'expliquer, mais j'ai l'impression que les choses se font sans beaucoup de concertation et que on appelle ça des politiques culturelles, parce que quand on dit que la ville n'a pas de politique culturelle ou qu'une ville n'a pas de politique culturelle, ça veut pas dire que parce que les choses se passent comme tu l'as expliqué tout à l'heure, que c'est pas une politique culturelle, c'est une politique d'exclusion. Souvent on dit qu'il y en a pas. Mais c'est aussi une politique qui amène à écarter un certain nombre d'activités et de productions ou d'équipes qui ne sont pas, effectivement, comme tu dis, dans le moule, où le problème de la rentabilité n'est pas évident. Mais est-ce que la culture doit être rentable? Ça, c'est quelque chose qui est un gros point d'interrogation. Et alors, pour parler de nous, c'est vrai que, comme on a toujours... ce que j'exprime là, je l'ai toujours exprimé, et on l'a exprimé à travers nos revendications à rester sur place au comptoir, et que je suis assez... C'est comme un miracle qu'on y soit resté. Et peut-être c'est une question de mobilisation, non pas pour nous défendre, mais pour défendre des principes, les principes qu'on défendait aussi. Ce principe d'avoir des pratiques artistiques, de continuer à en avoir, où on a exprimé la nécessité par rapport à une collectivité, que ces choses-là existent dans leur diversité. Et c'est très important de le dire, et peut-être que quand je pose le problème de la concertation, c'est qu'elle, effectivement, elle n'a pas lieu pour que soit effectivement exprimée et exigée, non pas que des noms, que ce soit... après, ça donne des noms, c'est le CIPM, c'est Cartoon, c'est un cinéma, c'est... Oui, bien sûr. Alors évidemment, moi, personnellement, c'est toujours difficile de dire c'est à moi, ça me revient de droit. Je pense que ce qui est essentiel, c'est que toute cette palette d'activités et de présence sur la ville existe et continue à exister et même se multiplie, malgré qu'on dise qu'on est trop nombreux. Voilà, ça c'est mon point de vue.
Qui veut réagir à ça? On pourra ajouter à la liste que j'ai faite précédemment qu'il y a une refonte du régime de l'assurance chômage des intermittents du spectacle et qu'il y a quelques artistes plasticiens qui vivaient grâce au RMI, qui pouvaient poursuivre leur activité de plasticien grâce au revenu minimum d'insertion, qui aussi sont sur la sellette. Certains se sont fait exclure de ce régime d'intermittent. Yves, il faut dire aussi que tu es syndicaliste et que tu fais partie du syndicat du CINAVI.
Oui, du voilà. CINAVI. Mais je suis un syndicaliste récent. J'ai jamais fait ni de politique ni j'ai jamais eu d'activité syndicale. J'ai décidé de rentrer dans des activités syndicales. Le CINAVI, c'est le syndicat national des arts vivants, mais qui représente un peu les compagnies indépendantes. Et je suis rentré dans cette activité-là en 2003. On sait pourquoi. Je veux dire, depuis 2003, on est rentré dans un plan de restructuration de notre secteur qui est absolument terrifiant. Je crois que je l'ai exprimé hier, puisqu'hier il y avait une COREPS où le CINAVI était invité. Et j'ai quand même dit, malgré toute la façon qu'ils ont de présenter les choses, où on a l'impression que on va vers le mieux. Le DRAC a annoncé, par exemple, qu'il y avait eu une augmentation de 15% en direction du spectacle vivant depuis 5 ans. Donc, je le crois. Et si, effectivement, il y a eu cette augmentation et qu'on est dans cette situation-là, c'est que la situation est vraiment beaucoup plus grave que ce qu'on nous raconte.
Puis je crois qu'on va que les financements ne vont pas vers les compagnies indépendantes, mais vers les grosses structures aussi.
Mais c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui nous échappent dans la répartition que moi, j'ai constaté des diminutions de partout. Dans notre secteur, on a diminué de partout. Et ce que je voulais dire, c'était surtout qu'on va vers un nouveau statut. C'est-à-dire qu'on va passer de l'intermittence à une espèce de statut de travailleur pauvre. C'est ce qu'on nous présente, quoi. Mmh. Et ça vaut dans d'autres secteurs. Mais dans notre secteur, c'est quelque chose qui va arriver, qui arrive. Parce qu'il y aura ceux qui sont exclus et il y aura les travailleurs pauvres. Voilà.
Alors, continuons avec toi, Yves. tu es chaud, je laisse le temps aux autres de se chauffer aussi. Ça en est où, le comptoir, là, aujourd'hui?
On est dans une sorte de statu quo, puisqu'on attend la réponse du propriétaire, hein, puisque la mairie a préempté, et le propriétaire, je crois, a 2 mois pour savoir s'il retire de la vente ou s'il accepte le prix que propose la mairie. Voilà. Donc on attend ça. Et puis il peut y avoir une procédure où il faut faire l'utilité publique.
L'intérêt public.
L'intérêt public, voilà. Mm-hmm. L'intérêt public, voilà.
Donc il faut
faire valoir l'intérêt public du site et des activités qui sont sur le site. Voilà.
Alors l'intérêt public, pourquoi vous êtes allé à Saint-Mauron? L'art de vivre, le comptoir, tout ça.
Il faut être clair. Je crois pas qu'on est allé à Saint-Mauron pour être à Saint-Mauron. Quand on cherche un endroit où s'installer, d'abord, tu imagines dans quelle situation on était. Donc, on est allé dans l'endroit où c'était le moins cher et le plus intéressant. Donc, un quartier qui est une zone urbaine sensible, très difficile, un quartier très difficile, puisque c'est à la périphérie de la Belle de Mai. Tu vois à peu près où c'est. C'est un quartier très difficile avec une population très pauvre, effectivement. Donc on s'est installé là, on n'a pas fait ce choix, mais après, au bout d'un moment, quand on y est, il y a quelque chose qui se met à exister avec un quartier, quoi. Je crois que nous, on s'est mis à exister dans cet endroit-là, à tisser des liens avec ce quartier. On est quand même dans des activités de création, hein. On n'est pas allé faire là-bas du socio-culturel, mais nous, on existe à cet endroit-là et on tenait à y rester, surtout parce qu'effectivement... je doute aujourd'hui qu'on arrive à retrouver dans Marseille les mêmes conditions de location et de surface, vu la flambée de l'immobilier. Quoi. Mmh. Voilà.
Le comptoir se réclame des nouveaux territoires de l'art?
Il se réclame des nouveaux territoires de l'art. J'ai l'impression que on est forcément ça. Je crois que après on se découvre, c'est par recoupement. Moi, je sais pas, les nouveaux territoires de l'art, c'est une manière de se nommer qui est de toute façon un peu insuffisante, puisque c'est quelque chose qui est né d'une réflexion collective et un petit peu consensuelle aussi. Hein, c'était pour fédérer un certain nombre d'espaces et pour les nommer qu'on a appelé ça les nouveaux territoires de l'art. Nous, à la fois, j'en fais partie parce que je me reconnais moins en partie dans la façon dont les choses sont racontées et exprimées, mais je veux dire, je vais pas le revendiquer plus que ça, quoi. C'est une manière de nommer les choses et de se reconnaître, peut-être aussi encore une fois par défaut, mais ça me dérange pas de dire que je fais partie, que le comptoir fait partie des nouveaux territoires de l'art.
Mais est-ce que ces nouveaux territoires de l'art portent des inventions particulières?
Des inventions particulières.
Ouais, inventent des choses particulières. Est-ce qu'ils s'inventent des choses particulières dans ces nouveaux territoires de l'art qui ne s'inventent pas ailleurs?
Moi, je peux pas le dire à la place des autres. Je peux pas le dire à la place des autres. Moi, je peux dire ce que je fais. Non, je peux dire que ce que je fais. Il y a eu une évolution dans le travail de l'art de vivre, dans notre travail, dans la manière de penser. Le projet artistique, où effectivement, nous, on a essayé depuis un certain temps de travailler dans un rapport à des populations, où effectivement, on mêle des professionnels et des amateurs sur les projets. Tu vois, là, on a une espèce de radio, puisqu'on est à la radio, on a un projet de radio fictionnel, comme ça, où on voudrait faire une radio avec les gens d'un quartier, par exemple, du quartier du 3e, ou bien, comme on va le faire à la montagne, on fait ça. Donc, qui a à voir un peu... C'est entre le syndicat d'initiative, c'est-à-dire où les gens viennent raconter la vie de leur quartier de manière évidemment assez fantaisiste et c'est plus du domaine de la fable que de la réalité. Et nous, effectivement, on les associe à ce projet-là. Bon, ça, c'est anecdotique ce que je raconte, mais c'est vrai que dans les projets, aujourd'hui, on essaye de sortir d'une production qui va d'un théâtre à l'autre et plutôt de rencontrer des organisateurs qui sont censés accueillir cette forme de projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rapport entre scène-salle qui est établi était peut-être un peu insuffisant pour qu'effectivement le spectateur soit réellement associé à quelque chose dans lequel il se retrouve. Je ne sais pas, hein, ça ne veut pas dire que... Parce qu'il y a une forme de production qui repose sur une facilité d'accessibilité, tu vois, des formes populaires plutôt populistes. Et je pense qu'il y a un autre endroit comme ça où le rapport peut s'établir. Moi, j'ai eu l'expérience d'un film qu'on a présenté justement à Villard d'Arène, où on était monté, le film d'un copain qui s'appelle Jacques Roboux, que peut-être les gens qui sont d'ici connaissent, qui s'appelle Au Village, c'était un documentaire qui avait été commandé par FR3 Corse et qui n'a pas été diffusé par FR3 Corse parce que justement, il n'était pas dans le moule, c'est-à-dire qu'il n'était pas monté comme il aurait fallu. Ça reposait sur une lenteur qui n'a plus rien à voir avec la télévision. Mais quand on montre ça à un public qui est totalement ignorant, hein, c'est pas un public qui fréquente les salles d'art et d'essai en pleine montagne, mais qu'un public du coin, on se retrouve avec des gens qui sont disposés et curieux. Et qu'effectivement, même s'ils le disent aussi, ils ne l'associent pas forcément à ce qu'ils regardent tous les jours à la télé, ils sont prêts à rentrer dans la proposition et à échanger et à s'intéresser au monde qui est proposé, que ce soit le monde qui est raconté dans l'image ou même cette façon de rythmer le film à cette écriture, à cette dramaturgie. Voilà. C'est toutes ces choses-là qui me paraissent importantes d'établir. Voilà. Alors, quand on fait ça, on a présenté ça dans une espèce de grange à la montagne. Il y avait 60 personnes, dont les deux tiers étaient vraiment des gens du village. Ça me paraît être des manières de faire aujourd'hui qu'il faudrait développer, quoi. Après, je pense que c'est le contraire de prendre un quartier et de l'amener à la criée, ou un village et de remplir un bus et de l'amener à la criée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas une chose contre l'autre. Je pense qu'il faut élargir le champ et multiplier les propositions.
Voilà. Emmanuel Vergès, je rappelle que c'est directeur de l'espace culture multimédia, ça s'appelle Zinc.
Ah, c'est Zinc, ouais, pas Zinc, mais Zinc.
C'est une structure qui existe à la friche La Belle de Mai, là où c'est là où d'où est partie cette idée de nouveau territoire de l'art un peu depuis le début de la friche, hein, presque au tout début. Qu'est-ce qui s'invente selon toi dans ces nouveaux territoires de l'art? Qu'est-ce qui s'est inventé? Qu'est-ce qui s'invente aujourd'hui?
Par rapport à ce que disait Yves Fravega, je voulais rebondir sur le terme de concertation, parce que dans la question de la concertation, il y a la question du collectif. Et moi, je crois que ce qui s'invente, il y a deux choses fortes qui s'inventent dans ces notions de nouveau territoire de l'art. La manière dont on rend les choses, et entre autres les choses de l'art et de la culture, un peu plus collectives. C'est-à-dire qu'on n'est pas, sur l'exemple de la relation scène-salle, on n'est pas dans une relation frontale d'amateur et de professionnel qui les uns présentent les choses que les autres vont consommer, mais dans quelque chose qui va se fabriquer ensemble. Et je crois qu'il y a là un mouvement un peu de fond. Je ne pense pas que ce soit inventé ici, beaucoup plus profond depuis une vingtaine, une trentaine d'années, d'essayer de voir comment on peut se travailler une autre relation à la société, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir développer une dimension beaucoup plus horizontale, beaucoup plus en pair à pair entre nous que par rapport à des références qui viendraient entre guillemets d'en haut dans une dimension plus verticale. C'est-à-dire qu'on n'est pas et on ne va plus aujourd'hui forcément se fabriquer une culture autour d'un texte de Molière ou d'un grand texte de théâtre ou de littérature, mais qu'on va essayer voire à le refabriquer, le recréer. Et ça ne veut pas dire, là encore, comme la question du bus, que ça ne doit pas exister, mais qu'on est en train d'essayer de fabriquer d'autres manières ensemble de se construire des choses culturelles. Et en même temps, le deuxième élément, c'est que se revendique, et Yves le disait, c'est que ça se fabrique à cet endroit-là. C'est-à-dire que se revendique quelque chose qui est de l'ordre du territoire, à la fois, je trouve, dans son sens très physique, c'est-à-dire la revendication d'habiter à un endroit, d'être à un endroit, de travailler à un endroit, travailler avec les gens qui sont là, parce que la question du collectif, moi je crois qu'elle est éminemment liée à l'endroit où on va le fabriquer. Et en même temps un peu plus symbolique de cet endroit à partir duquel aussi on est légitime aujourd'hui les uns et les autres de parler. C'est-à-dire que c'est pas simplement dans les centres entre guillemets, que ce soit les médias de masse, que ce soit les centres administratifs, politiques, économiques de notre société, de notre monde, de notre planète. C'est pas à partir de ces endroits-là que les messages peuvent partir, mais qu'aujourd'hui on est légitime de parler à partir de l'endroit où on vit. Je pense que dans les nouveaux territoires de l'art, il y a ces deux notions-là qui viennent essayer de résoudre, apporter des réponses, je trouve, très concrètes, ouais, voilà, depuis plus de 30 ans, sur deux choses très fortes, quand tu évoquais toute la liste tout à l'heure de choses multiples et variées, de notions, peut-être de mythes, de fantasmes qui nous sont imposés, qui est ce fantasme de l'efficacité, de la rationalité, où il faudrait tout planifier, et où je pense qu'aujourd'hui, dans les nouveaux territoires de l'art, parce qu'il y a des logiques de concertation de collectif, on est en train de réagir plus par événements, plus par choses qui avancent petit à petit, et on se donne le temps de les travailler, et on ne les planifie pas. Et de l'autre côté, en revendiquant le fait d'être là, on essaie de jouer contre ce fantasme d'une mobilité qu'on entend, j'écoutais encore ce matin... Jean-Marc Sylvestre qui était à Davos.
Alors ce matin, je précise que c'est
vendredi matin sur France Inter, dans son débat un peu très spectaculaire, toujours avec Bernard Maris, il était à Davos, donc il parlait de Davos. Et c'est assez effrayant comment d'un coup on essaie d'ancrer fortement ces mythes de mobilité, ces mythes où il faudrait qu'on soit complètement flexible et dans une logique de rationalité, de rationalisation des échanges, alors que humainement, c'est impossible qu'on vive ça. Enfin, les machines peuvent vivre ça. Alors, voilà, je crois qu'il y a, deux choses, ce travail-là.
Alors précisément, ce qui est en train de s'inventer en ce moment à la friche La Belle de Mai, c'est une nouvelle façon d'être ensemble qui s'appelle une société coopérative d'intérêt collectif. C'est en débat en ce moment, c'est un passage, c'est quelque chose qui a inspiré, que la friche a inspiré apparemment à Guy Hervouet, qui a écrit un rapport dans lequel il mettait ce modèle en place de société coopérative d'intérêt collectif. C'est quelque chose d'assez récent, ça date de 2002.
Guy Asquette,
pardon.
T'es secrétaire.
Oui, j'ai dit Guy Arbouet, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ça? Il y a eu des réunions il n'y a pas très longtemps à la friche La Belle de Mai. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ces nouvelles formes d'être ensemble, de collectif?
Mais il y a le, y a, voilà, Guy Ascouet, qui était secrétaire d'État à l'économie solidaire du gouvernement, du premier gouvernement Jospin, avait commandé un rapport à quelqu'un qui s'appelle Patrick Vivret, qui écrit un rapport qui s'appelle Reconsidérer la richesse, qui était une manière, et on l'a vu, des gens sont passés ici l'année dernière, présenter les différentes notions, différentes idées des collectifs qui, autour de Paris, inspirés de Québécois, parlent non plus de, du produit intérieur brut, mais du produit intérieur doux, parlent d'une nouvelle manière d'envisager, de donner de la valeur à des choses qui sont éminemment matérielles, qui sont ces questions globales de richesse. C'est quand tu parlais de la fin des classes à Pâques, qu'on se dit tous que l'art est une richesse, mais on ne veut surtout pas la monnayer ou la quantifier en valeur économique. Mais que voilà, c'est des gens qui réfléchissent sur ces notions-là et qui ont proposé dans une forme de schéma, une forme d'organisation de société privée, qui travaille sur deux notions, la notion de l'intérêt collectif, comment des gens arrivent à définir ensemble la manière dont ils veulent travailler et autour de quoi, et qui propose dans le droit fil de ce qui s'est fabriqué dans les sociétés coopératives, les SCOP, ou les notions de coopératives, des organisations à mi-chemin entre des entreprises avec un conseil d'administration et la forme associative, qui sont les SIC, les SKIC, les SIC, les SCIC. Et là, est en train de s'inventer ou en train de se fabriquer une organisation comme ça sur la friche pour gérer l'endroit où on est. Qui est cet espace de 40 000 mètres carrés ici, avec l'ensemble des habitants qui y sont, des gens qui passent, des gens qui y font des choses de manière ponctuelle ou de manière permanente. Et là, il y a quelque chose de très. Enfin, je trouve que dans les discussions qu'on a, c'est vraiment mon point de vue de. Mon personnel de résident à la friche, où il y a des choses qui commencent à se mettre en discussion et une manière de réfléchir autrement le fait d'être ou non, je ne sais pas si c'est la vraie question, mais le fait d'être là, d'habiter là, pas forcément d'être propriétaire ou non propriétaire, mais le fait d'habiter là et de se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble pour à la fois être ici, pour trouver un sens à être ici, et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour les gens qui nous entourent, pour nos voisins, aux rues d'à côté, et nos voisins un peu plus généraux de l'autre côté de la Méditerranée ou dans le monde.
Yves, tu as entendu parler de ces SKIC ? De ces SKIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif ?
Non ? Oui, j'ai entendu parler de ça.
Parce que ça pourrait être quelque chose qui intéresse le comptoir Sainte-Victorine. Pareil, oui. C'est fait pour faire travailler des gens qui ont, pas forcément qui ont des activités très différentes et qui peuvent travailler ensemble avec ça.
Alors juste, je crois pas que ce soit une fin, je crois que c'est plutôt un outil qui vient résoudre quelque chose à un moment, mais pas du tout un objectif.
C'est ce que j'allais dire, parce que pour nous, dire une chose pareille aujourd'hui, c'est mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Je sais pas, on en est vraiment à se poser le problème de savoir si on doit créer un collectif, qui doit en faire partie. Parce qu'effectivement, nous, on avait créé une association qui s'appelle l'Union des résidents du comptoir, qui s'appelait Sauvons le comptoir, tu vois. C'est comme voter non. Après, c'est difficile d'être positif, tu vois. Non, on veut pas partir, on a dit. Mais après, une fois qu'on est tous, si on reste tous dedans, c'est de quelle façon on va y rester. Et à partir de là, les problèmes commencent Il va falloir qu'on y aille tout doucement et qu'on fasse bien, puisqu'on avait défendu ça, c'est-à-dire faire valoir la singularité de chacun, les activités de chacun, parce que nous, on a des commerciaux qui sont à l'intérieur, et on avait défendu le fait que c'était cette cohabitation qui nous intéressait, c'est-à-dire qu'il y avait des artisans qui avaient des beaux commerciaux et qui avaient des activités commerciales, et nous, c'est dans cette association, avec et ces croisements, cette façon d'utiliser l'espace, qui ça nous intéressait aussi. De ne pas être que dans les cultureux qui restent entre eux et puis les autres s'en vont. On a essayé de poser cette chose-là. Mais à partir du moment où on doit être ensemble, cohabiter et développer un projet, ça devient très compliqué parce que les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Il va falloir qu'on soit très habile et qu'on avance avec beaucoup de précautions dans le projet.
Alors, si votre propriétaire souhaitait vendre le comptoir à Kaufmann & Broad, c'est que le prix du mètre carré augmente à Saint-Maurin. Il paraît que les artistes n'y sont pas pour rien si le prix du mètre carré augmente.
C'est sûr que nous, c'est-à-dire cet endroit qui est une ancienne fabrique d'allumettes, hein, puis après c'est devenu un comptoir d'épices, et puis effectivement c'était occupé par différents artisans. Nous, on a pris la succession d'un. C'était quelqu'un qui travaillait dans le cuir, hein, là, quand on était arrivé, mais il n'y avait plus d'activité depuis 2-3 ans. Et ben quand et donc on a pris on s'est installé là et d'autres sont arrivés. En fin de compte, c'est depuis 97 ou 98 hein, que les artistes ont commencé à s'installer sur ce site. Et effectivement, c'était très intéressant pour le loueur de découvrir que c'est très bizarre parce que la plupart du temps, quand on s'installe comme ça, ils savent qu'on a des aides, qu'on est subventionné d'une certaine manière et que on assure bizarrement plus facilement les loyers que peuvent aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles ils existent, peuvent les assurer les artisans qui sont des fois, qui plongent d'un coup et à un moment donné, il n'y a plus rien. Et ils se sont rendus compte que nous, on était des bons clients. Et du coup, on s'est installé là et d'autres sont venus et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'était ben, maintenant tout est beau, tout est bien, tout le monde dehors, allez, on rase et on fait des immeubles. Bon, c'était un peu grossier, donc on a dit que ce n'était pas possible, voilà. Mais c'est compliqué.
On est allé se promener il n'y a pas longtemps avec Heinrich Sturm. On a traversé le quartier de la Belle de Mai et de Saint-Mauron. C'est vrai que Heinrich, on peut se rendre compte que ça bouge pas mal dans le quartier, ça construit pas mal. Et il y a pas mal de choses qui disparaissent aussi, non ?
Oui, c'est un quartier comme d'autres.
Vas-y, rapproche le micro. Ouais.
C'est un quartier comme d'autres quartiers périphériques de Marseille qui ça bouge beaucoup. Mm-hmm. J'ai l'impression que le boom des années 60 à 70 se répète maintenant sur notre forme avec d'autres formes de bâtiments.
Quelle vision tu as ce quartier de Saint-Mauron? Bon, je rappelle que tu organises des promenades depuis très longtemps un peu dans différents secteurs de la ville. Celle que tu nous as fait faire lundi après-midi, c'était en lien avec ce plateau hors les murs, donc tu nous as fait passer que par des endroits où normalement on ne doit pas passer, que des trucs interdits. Et on a traversé tout ce quartier de Saint-Mauron. Quelle vision tu as de ce quartier de Saint-Mauron?
Oui, mais il faut dire que ce que je fais là, d'inventer ou de faire des parcours, c'est chaque fois un discours. C'est-à-dire qu'on peut traverser le quartier de la Belle de Mai ou de Saint-Mauron de différentes manières. Et chaque fois, ou chaque décision d'un parcours donnerait une autre image. Mm-hmm. Par exemple, pour travailler à la Belle de Mai, j'ai accompagné des amis paysagistes, par exemple, qui ont travaillé sur le quartier, où j'ai accompagné un ami géographe urbain qui a suivi les sociabilités du quartier. Et ça donne complètement d'autres choses que moi dans ce parcours qu'on a fait ensemble lundi, qui est un parcours quasiment asocial, c'est-à-dire qu'on tourne le dos au cheminement habituel et on voit la ville plutôt par son décor.
C'est un quartier où ça construit beaucoup, Saint-Mauron, et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des espaces encore très disponibles. On est allé dans la caserne, pas très loin de la caserne du Muy, où on a vu des espaces totalement incroyables, encore disponibles, des réserves d'espaces. Alors d'un côté, on sent que ça se condense, et de l'autre, il reste tout ce potentiel exploitable. D'ailleurs, Jean-Pierre Mouler avait l'air très intéressé pour faire des résidences d'artistes dans cet endroit-là, non ? Ça fait
Des bâtiments que je connaissais pas du tout, qui sont superbes, avec une architecture fantastique. Et effectivement, on a l'impression que tout ça s'est endormi depuis longtemps et il y a un charme incroyable dans cet endroit-là. On a fait aussi un voyage, puisque j'ai participé à cette balade, cette promenade du lundi. On a fait aussi un voyage dans le temps. Ce n'était pas que dans des espaces, mais effectivement, on a traversé aussi des époques de la ville.
Oui, Yves ?
Ou je me trompe, ou alors effectivement, la caserne du Muy doit devenir la prochaine. On doit transférer l'école des Beaux-Arts dedans.
Et écoute, s'il y avait eu Serge Beauté il aurait pu nous répondre sur que devenir cette caserne du Muy.
Parce que moi, on m'a donné cette information qu'effectivement, ça devait quitter Lumini pour revenir en ville. C'est vrai qu'une école d'art mis loin de tout comme ça, c'est vrai que c'est important que des artistes soient au cœur de la ville. Mais ça, c'est mon avis aussi.
Et que deviendra à ce moment-là l'école de Lumini ?
Je pense qu'ils vont y mettre des pauvres. Et puis, c'est elle.
En tout cas, dans cette balade, Hendrik, tu nous disais que, comme partout ailleurs, tu sentais que l'espace se clôture de plus en plus à Marseille.
Oui, ouais. Ça je constate depuis deux ans.
Vas-y, rapproche.
C'est que je constate depuis deux ans que les sentiers, les passages se ferment de différentes manières, avec différentes formes de grilles, de déchets, de digicodes. Et c'est quelque chose qui s'accélère. Mais à Marseille, il y a aussi une culture d'ouverture, de pénétrer, en fait.
Ce qui était très impressionnant aussi dans cette balade à Saint-Maurin, c'est quand on s'est arrêté sous le pont de l'autoroute, cette autoroute monumentale qui a partagé il y a plusieurs années ce quartier en deux de Saint-Maurin. Et ce qui était amusant, c'est que tu nous montrais des choses qui s'étaient construites sous l'autoroute et qui n'apparaissent pas sur les cartes.
Oui, mais ça, c'est le propre de la ville, qu'il y a une superposition des espaces. Des espaces bâtis aussi bien des espaces immatériels, des territoires superposés et pas forcément partagés.
Dans ce genre de promenade, tu dis que il y a une certaine violence parce qu'il faut que tu négocies ta présence avec les gens que tu rencontres.
Oui, qui est nécessaire parce qu'on est. A priori, on dit que la ville, la condition urbaine, c'est là où on est dans un espace public, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Normalement, quand on est dans le territoire de quelqu'un, et il faut montrer pas de planche.
Négocier sa présence, je crois que c'est quelque chose qui traverse toutes les démarches qui sont ici. Sophie, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'épicerie qui a négocié sa présence pendant 5 ans, puis qui a disparu? Donc je rappelle, c'était un lieu qui était sur le cours Julien, qui a eu pendant un petit moment une programmation hors les murs. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de la démarche de ce lieu, de son histoire et de pourquoi ça a disparu?
Alors, l'épicerie est née d'abord de l'envie de travailler sur un quartier défini, qui était un quartier au sein duquel différents types de populations se croisent sans donner vraiment l'air de se rencontrer. Donc l'idée, c'était vraiment de choisir ce quartier-là et de faire quelque chose à taille humaine, je dirais, qui était plutôt basé sur la convivialité, et la rencontre entre les gens, et qui du coup a donné un lieu qui, enfin en tout cas à nos yeux, ressemblait pas à un lieu de spectacle, dans l'idée aussi de désacraliser un peu l'accès à la chose culturelle un peu angoissante et stressante, et de se dire que ça pouvait être quelque chose d'assez simple et de joyeux et de familier que d'aller voir un spectacle ou une expo ou un concert. Donc elle est née de là. L'épicerie faisait 60 mètres carrés. Donc l'idée de partir hors les murs, elle est venue à la fois d'un besoin d'agrandissement parce qu'on avait envie de programmer des choses qui ne rentraient pas dans les murs. Et c'est vite devenu une contrainte qui, comme celle de la taille du lieu fixe, nous stimulait énormément. Et donc du coup, on est... on a un peu transformé cette envie de départ en une contrainte que je trouve créative, enfin en tout cas qu'on a voulu transformer comme quelque chose de stimulant artistiquement, sachant qu'on était du côté de la programmation. Donc après, l'idée, c'est de faire se rencontrer notre stimulation à nous en tant que programmateurs et notre envie de décloisonner certaines choses avec une envie qui serait ou pas la même chez l'artiste qu'on programme.
Qu'est-ce qui s'est inventé dans ces hors les murs de l'épicerie?
Je dirais que, enfin, et du coup pour avoir un peu travaillé sur le hors les murs aussi, sans compliquer. À mon avis, la base de ce qui se passe dans le hors les murs, c'est la tentative de décloisonnement, et c'est ce qu'on retrouve dans ce que on appelle les nouveaux territoires de l'art, dans ce que tu disais avec tes promenades, dans ce que chacun a dit, c'est cette envie de décloisonner les alors que ce soit les familles culturelles sur Marseille, que ce soit le rapport au public, que ce soit l'envie de faire partir un projet de la base et pas d'en haut de manière verticale. de faire se rencontrer les gens, que ce soit le public et l'artiste, mais aussi quand on a à négocier sa place sur le territoire, d'avoir à entamer une discussion avec des gens sur la nécessité de l'art dans la société. C'est pas quelque chose qui nous arrive au quotidien, spontanément. Et le fait d'aller hors les murs, au sens où on va dans un endroit qui n'est pas a priori dédié à la culture, ça nous impose cette renégociation et du coup cette discussion et du coup ce débat au sein de la société à l'échelle que ça suscite. Hein, ça peut être des toutes petites échelles comme des grosses échelles.
Alors, on a l'impression que dans les démarches là dont on parle, hors les murs, on va voir celle du Merlan bientôt, il y a quand même quelque chose qui est central, c'est la relation au public, je mets au pluriel. Et moi, ce qui m'a assez séduit dans la promenade avec Henrik, c'est qu'il y a vraiment un rapport avec celui qui propose la promenade qui est assez particulier. Alors, je sais pas si ça se passe comme ça tout le temps, mais on est dans une prise de risque partagée. Tu poses des questions aux gens qui sont avec toi, dire voilà, il y a ça peut-être là-bas, on le fait, on le fait pas, etc. Il y a une sorte de relation que tu établis avec les promeneurs assez particulière, de partage justement, de partage de risque, de partage d'itinéraire, de partage de choses comme ça. Est-ce que tu pourrais... Et la convocation aussi est assez particulière, quoi. C'est-à-dire, c'est pas, tes promenades ne sont pas annoncées de partout, ça se passe un peu par le bouche à oreille, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation que tu cherches à établir avec les gens. J'ai l'impression que c'est central dans la promenade.
Oui, mais que je partage avec mes collègues là, qui sont autour de moi, aussi bien Yves Ravega, ce qu'il racontait sur le rapport avec un mélange en fait, entre amateurs, où la distinction entre un professionnel et amateur ne joue plus, ou ce que disait Emmanuel sur l'horizontalité du rapport. Je me retrouve là aussi que là, les situations des personnes qui connaît et qui à l'autorité est embranlée.
J'ai une copine qui a fait une balade avec toi m'a dit que sur certaines balades, tu donnais des petits livrets à la fin des promenades. Tu avais donné des petits livrets.
Oui.
Il y a quoi sur ces livrets?
Il y a des représentations du lieu en fait traversé. Parce qu'il y a ce qui m'amuse, en fait, c'est pas seulement de faire des balades, mais aussi de regarder comment on parle d'un lieu et de constater qu'il y a toujours des regards multiples. Et je m'amuse en fait à collectionner ces représentations graphiques et de les superposer. Et comme ça, ils sont bien là et on peut les continuer, on peut imaginer d'autres. Mais j'aimerais rebondir en fait, par rapport au décloisement sur plusieurs niveaux à quelque chose que Emmanuel a dit tout à l'heure, parce que je trouve... problématique parce que cette question de décloisement comme un grand mouvement partagé, culturel, je le vois un peu avec... c'est pas si simple que ça. Alors Emmanuel a parlé de la légitimité de parler à partir d'un endroit où on vit. Ça veut dire que... ça je vois critique parce que là il y a une nouvelle stratégie territoriale. C'est-à-dire que moi je suis contre ça. C'est-à-dire que moi je me réserve le droit... d'avoir un avis sur un lieu même quand je vis pas et c'est à mon avis c'est une des conditions urbaines en fait de ne pas se juger par rapport à son lieu d'où on vient mais d'avoir un accueil poli sans prendre en compte son attachement à un lieu et j'ai l'impression qu'on est en train de les perdre cette condition. Mais c'est évident, il faut toujours savoir se contextualiser, il faut savoir d'où on vient, aussi bien conceptuel que spatial. Mais déjà dans le terme « nouveau territoire de l'art », moi ça m'agace. C'est justement il y a ce que je cherche dans mon travail de promeneur, c'est d'être aterritorial, d'être attentif à l'endroit, mais de ne pas le revendiquer. De ne pas créer de nouveaux territoires. C'est le contraire, c'est ce que je souhaite.
Ce qu'on vit aussi, d'ailleurs...
Jean-Pierre Moulin.
Oui. c'est-à-dire cette notion de territoire, moi je suis assez d'accord, mais ce qu'on vit aussi avec toi en tant que justement participant et non public. Et c'est pour ça que je trouvais très juste que tu fasses cette remarque. C'est vrai que quand on fait ces promenades, il n'y a pas l'artiste, celui qui sait et ceux qui suivent. Il y a quelqu'un qui est en charge d'une histoire et qui la guide. Et il y a un ensemble de personnes qui participent. Et de ce fait, on vit à ce moment-là vraiment une histoire, on partage une histoire ensemble et on a une place. Et on a une place vraiment active là-dedans. Et moi, ça m'a beaucoup touché aussi, ça, de ne pas être juste amené, mais d'être compagnon, finalement, de route. Et c'est là-dedans, moi aussi, que ça m'intéresse, finalement, ces places qu'on peut avoir, comment l'artiste peut rencontrer son public, finalement. Quelle place il lui laisse.
Oui, là, il y avait des jolis moments lundi quand, où je bénéficie, en fait, du regard et de la sensibilité de mes copromeneurs, où vous venez, créateurs. Il y avait Maritza Fuentes, une jeune péruvienne, quand on a rentré dans les murs des artisans militaires, il y a des artisans bottiers, des artisans tailleurs, on a vu que dans les vitrines, qu'ils vendaient elle voyait qu'il y avait des parfums des marques qui étaient proposés à prix...
14 euros, je le dis, ouais. qui pourraient être intéressés par le plan.
En quelque sorte, là, Maritza a eu une antenne pour quelque chose en fait, que j'aurais jamais vu. Et ça révèle aussi toute un tout petit aspect de l'économie qu'on ne voit pas.
Donc Jean-Pierre, sur cette question du public, toi, c'est quelque chose qui travaille depuis plusieurs années au sein de la scène nationale du Merlan. Tu animes des ateliers d'écriture en marche, je crois que ça s'appelle comme ça. Tu m'as dit que tu cherchais à donner sa place à chacun. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, c'est-à-dire donner sa place à chacun ?
C'est déjà, enfin pas donner, mais peut-être proposer à des personnes qu'ils prennent une place dans un espace qui nous est commun. C'est-à-dire que, finalement, une scène nationale, un lieu public, qu'est-ce que c'est ? Il y a des gens qui travaillent dans ce lieu, qui parfois se sentent seuls. Il y a parfois des artistes qui travaillent et qui parfois se sentent seuls aussi. Et puis, parfois, il y a du public qui vient et qui repart. Et comment faire pour que ce lieu vive, existe ? En dehors des temps de représentation, que finalement ce public soit aussi intervienne ailleurs que dans son fauteuil. Mmh. Et finalement, des artistes travaillent sur des sujets, ont des réflexions. Ce que le Merlan a choisi un petit peu de développer, c'est les questions autour du corps. Par chance, on a tous un corps, donc a priori, on est tous concernés. Et là, c'est finalement essayer de permettre à chacun d'avoir une parole, une réflexion, et que tout ça se rencontre. Et offrir la parole de personnes à du public, à des artistes aussi. Voilà, donc les ateliers d'écriture sont pas des ateliers d'écriture, d'ailleurs, ce sont des ateliers où on utilise, enfin des ateliers des moments où on utilise aussi l'écriture comme support et où finalement des gens interviennent pour porter une parole qui est partagée.
Donc on pourrait dire que c'est quelque chose que le Merlan cherche à inventer, ces nouvelles relations entre l'œuvre, l'art et non, c'est pas de l'invention.
Moi, je crois pas, c'est du travail, enfin, c'est pas de l'invention, c'est-à-dire que les choses se font aussi par hasard. Au début, on devait réouvrir, je crois, en mars, plus 2005, avec une programmation qui était déjà établie, puis c'est pas possible, donc à un moment donné, il y a des artistes qui attendent, qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être pas fermer, on va peut-être essayer d'aller ailleurs, et c'est en allant ailleurs aussi que finalement on se rend compte de la dynamique que ça crée, comment finalement on rencontre d'autres lieux, d'autres théâtres, réellement, cette fois-là, c'est pas uniquement dans le désir de se rencontrer, mais comment on va chez les autres. Et en allant chez les autres, comme on va chez des amis aussi, ben finalement, on rencontre vraiment les partenaires. Comment on va finalement aussi dans d'autres lieux, parce que dans notre vagabondage, on est allé dans des théâtres, mais on est allé aussi dans des lieux qui n'étaient pas des lieux de théâtre. Donc comment finalement, avec le public, c'est pas tellement à la rencontre non plus de public nouveau, parce que finalement, c'est pas parce qu'on va à la Minoterie ou à Bonneveine dans un parc qu'on rencontre obligatoirement les gens du cru, mais on se promène aussi avec du public. Donc à un moment donné, on se déplace et on déplace des postures finalement, pas plus que ça. Et donc on permet aussi finalement à des gens de se sentir un peu plus chez eux, parce que nous-mêmes ne sommes pas dans un grand confort, donc on invente un petit peu à la va-vite un bar finalement qui est un peu mal foutu et qui fait que du coup les gens se sentent peut-être un peu moins intimidés et qui se disent tiens, c'est comme à la maison, et voilà.
Donc on a un promeneur et un vagabond sur le plateau. Et ce qui m'a étonné, moi, enfin ce qui m'a fait oui, Fravega,
rajouter que ce qui est arrivé au Merlan va arriver à la Criée et à l'Opéra,
puisque... et à l'Opéra et à la Minoterie.
Oui, mais donc la Criée et l'Opéra qui vont fermer pour travaux. Oui, et ils vont devenir aussi itinérants.
La Minoterie va fermer aussi pour travaux et va devenir aussi itinérant, donc il va y avoir beaucoup de gens hors les murs. Ouais.
Pour le Merlan, ça a été une chance. Certainement pas pour les artistes, parce que finalement, pour nous, le problème, c'est que du coup, on ne peut pas accueillir d'artistes en création. Mais finalement, pour nous, ça a été une chance, parce qu'on a vraiment expérimenté des choses. Et l'idée, enfin, ce qu'on souhaiterait faire, peut-être que... Enfin, j'espère qu'on tiendra un petit peu cette idée-là, mais c'est qu'à la réouverture, eh bien, on continue d'une part le vagabondage à l'extérieur pour certaines œuvres, parce qu'on se rend compte aussi finalement qu'accueillir un artiste à Marseille et se dire quel est l'écrin qui lui va le mieux, et que c'est peut-être pas obligatoirement le Merlan, c'est une chose intéressante. Mais par ailleurs, essayer de se dire que quand on a un lieu, finalement ce lieu ne nous appartient pas, et qu'on va essayer de vagabonder à l'intérieur pour jamais vraiment s'asseoir. Voilà, c'est peut-être utopique, mais on aimerait bien arriver à faire ça.
Alors, juste pour finir sur l'histoire de la caserne, après Yves Fravega reprendra le micro, c'est Jean-Pierre était tout à fait fasciné par le lieu. Il disait, oh là là, on installerait bien des artistes en résidence ici. Donc, ils ne sont pas encore rentrés dans leur mur, le Merlan, mais ils se sentent déjà à l'étroit, quoi. C'est assez rigolo.
Non, c'est vraiment la place pour les artistes pour travailler. C'est ce qui manque le plus, parce que finalement, des théâtres, il y en a, des lieux de représentation, il y en a, et ils ne sont pas toujours tous occupés. Mais des lieux pour que des artistes puissent travailler, c'est vraiment important que ça existe.
Oui, moi, je trouvais que c'était intéressant, cette expérience, parce que ça pourrait être appliqué à tout, c'est-à-dire ne jamais, plus personne ne rentre chez soi, mais on est tout le temps en mouvement dans une ville et on circule. Et par contre, ce qui est important, c'est effectivement des lieux de travail. Il faut qu'il y ait des lieux de travail, mais effectivement, des lieux de représentation. Il faudrait que tout circule comme ça, l'Opéra, le CDN, le Merlan, la scène nationale, enfin, que tout ça soit sans arrêt en mouvement. Ce serait intéressant d'imaginer une circulation permanente et effectivement de développer toute une politique qui fasse qu'il y ait des lieux de travail et des lieux de résidence pour qu'effectivement on puisse créer dans de bonnes conditions. C'est ça qui manque le plus.
Alors, il y a une discussion du philosophe Jean-Christophe Hol avec Philippe Foulquier, où Jean-Christophe Hol disait justement il ne faudrait plus penser en termes de public, mais en termes de présence de l'art dans la cité. Le public est constamment en mouvement dans une démarche d'appropriation d'espace.
Le public en mouvement et les artistes aussi, parce que c'est intéressant qu'ils soient en mouvement dans la cité, les artistes. Après, ce qu'on disait tout à l'heure à propos de... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du communautarisme. Quand on dit on est d'un endroit, et c'est un petit peu le danger si on ne fait pas attention... Et qu'on dit on est de tel endroit et c'est à cet endroit-là que...
Mais alors Manu, bon, il va falloir qu'il réagisse parce que là, ça en fait deux qui lui tombent sur eux.
C'est ça. Non, mais j'ai compris ce que tu as dit. Oui, ça, oui. Simplement, il faut faire attention aux termes, parce que moi, je trouve que parfois, dans certaines manières de parler des choses,
Il y a des gens, on peut s'engouffrer, il y a des gens qui, il peut y avoir un malentendu. Voilà.
Il peut y avoir un malentendu. Non, sur ces questions de mouvement, moi, tu disais, il y a deux marcheurs, il y a un marcheur, un vagabond à la table. Moi, dans beaucoup de discussions qu'on a avec, sur la manière dont on fait les choses, on m'a dit souvent, mais toi, t'es le gardien du phare, t'es celui qui restera toujours au même endroit tout le temps. Et c'est peut-être un héritage terrien qui fait que moi, je suis très attaché, effectivement, au lieu dans lequel on habite. Parce que je pense qu'il peut y avoir circulation s'il y a des points d'ancrage, s'il y a des points à partir desquels on peut générer de la circulation. Et moi, je suis fasciné par l'expérience d'Hendrik, et quand je travaille sur les nouvelles technologies, donc c'est des choses qui sont réseau, moi j'ai toujours en tête une BD que j'ai lue il y a une quinzaine d'années qui s'appelle « La ville n'est pas un arbre ». Qui est une BD, qui est une réflexion sur l'urbanisme de la ville, où on avait tout sectorisé les choses, on avait fabriqué d'en haut les endroits où il y avait des fonctions, il y avait des gens qui les occupaient, etc. etc. Et au final, d'un coup, il y a des gens qui décident de faire une intervention, qui est une performance artistique, qui font croire que ce sont des ovnis, et qui ramènent tout le monde ensemble dans un espace public, qu'ils apprennent à réhabiter tous ensemble, et où ils décloisonnent l'ensemble des frontières de la ville. Moi, quand je dis la légitimité de l'endroit, de parler de l'endroit où on vit, moi, c'est cette manière dont voilà, mon grand-père habitait une vallée qui est la vallée de Barcelonnette, qui est restée fermée pendant des siècles parce qu'il n'y avait pas de route, et qui s'est développée une langue particulière, une culture particulière. Et au moment où il y a un peu plus d'un siècle, on fabrique l'école nationale, les enfants qui parlaient dans cette langue-là étaient punis, et petit à petit cette langue-là n'a plus été transmise. Bon, je ne fais pas du tout de passéisme, mais en même temps, je me dis que dans une question de langue, dans une question de culture, il y a ce mouvement descendant qui est venu unifier quelque chose, fabriquer un intérêt collectif de manière plus ou moins forcée. Et moi, je me dis, mais comment, non pas on va refaire vivre cette langue et cette culture, mais quelle était son importance dans le vivre ensemble qui se générait dans cette vallée qui était coupée du monde. Donc en même temps, c'était un endroit où ça habitait. Et en même temps, c'est des choses autour desquelles il y avait des gens qui commençaient à circuler. Et dans la fin des années 1800, ils sont partis, les gens de cette vallée-là, à Lyon, pour travailler pour les soyers, les canuts et les grandes soieries de Lyon, et les fabricants de tissus, qui sont allés vendre, et ils sont allés développer des comptoirs au Mexique. Et les arrière-petits-fils de ces Barcelonnettes qui étaient partis au Mexique sont revenus dans la vallée et ont ramené d'autres langues, d'autres cultures, d'autres choses. Donc il y a quelque chose dans cette petite histoire qui, moi, m'interroge en permanence, c'est que voilà, il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui sont partis, il y a eu du mouvement qui était permis parce qu'il y avait un point d'ancrage, et que je me dis qu'il y a quelque chose d'éminemment important, cette articulation entre, vous disiez, les gens du cru et les gens d'ailleurs, entre les endroits dans lesquels on habite et des endroits qu'il faut qu'on laisse traverser, traversant ou traverser. Moi, je pense qu'il y a ces deux dimensions-là, et on est en permanence à devoir jouer et à devoir négocier comment ces deux dimensions fortes du mouvement et de la sédentarité doivent exister et cohabiter. J'ai qu'une crainte, c'est que ce discours sur le mouvement, sur le fait que on va traverser en permanence des lieux, on va faire des choses, etc., ne viennent qu'abonder à ce discours que je trouve extrêmement dominant, entre autres par les économistes et les gens de la pensée capitaliste aujourd'hui et libérale, cette question de la mobilité. Et en même temps, je la trouve très intéressante, et en même temps, je la trouve aussi complexe à traiter que la question que tu évoquais, Yves, du communautarisme par rapport au lieu. Et donc on a à gérer ces deux paradoxes. D'un côté, ne pas rentrer dans le communautarisme et tout refermer à l'endroit où on habite, et en même temps, ne pas tomber dans l'excès inverse, qui est cette question de la mobilité permanente, qui, à mon avis, ne fabriquera plus des choses à l'endroit où on est. Enfin voilà, c'est un peu ces choses-là qu'on est en train d'essayer de d'ébranler. Je trouve qu'elles sont assez intéressantes.
Oui, mais je me demande si je veux dire, la fonction même de l'artiste... Enfin, moi, je fais partie des... Je suis dans les arts du spectacle. Et je crois qu'il y a une histoire qui est effectivement l'histoire de l'itinérance, quoi. Je crois que l'artiste est itinérant et il va rencontrer les gens là où ils sont. Mais c'est important, cette notion de l'artiste. Alors, est-ce que l'artiste doit se mettre aller dans un endroit et ne plus bouger, ou est-ce que... Enfin, c'est très compliqué.
Est-ce qu'on invite? Est-ce qu'on est hospitalier? Est-ce que... Voilà, il y a tout ça aussi autour.
Alors,
Juste faire circuler des idées, des contenus, des perceptions. Si j'ai invité Emmanuel Vergès aussi, c'est pour qu'il nous dise deux mots sur ce qui est en train de se passer, enfin qui se passe depuis un moment dans le libre. C'est vrai que il y a les murs de la propriété intellectuelle qui empêchent beaucoup de choses de passer et de circuler. Mais c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tout ce qui est logiciel, informatique, ouais, enfin propriété intellectuelle, ce genre de choses-là. Mais aussi, on se rencontre aujourd'hui sur les semences, c'est-à-dire que maintenant, à la limite, l'agriculteur, il loue des semences, il doit recommencer toutes les années à louer quelque chose, on lui impose des semences, il est plus... voilà. Donc, Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler de ce hors les murs que représente le libre aujourd'hui et de ce qui s'invente dans cette culture du libre? Enfin, aujourd'hui, depuis plusieurs années quand même.
Depuis plusieurs années. De faire court, c'est un peu compliqué. Enfin, je pense qu'on est... Enfin, la question du développement des logiciels libres, qui est un peu à l'initiative d'un mouvement un peu plus vaste aujourd'hui, qui emploie le terme, ou qui utilise le terme de culture libre, et un mouvement qui essaie de se dire comment est-ce que, de la même manière que Patrick Vivray a écrit ce texte, ce rapport sur reconsidérer la richesse, de tout ce qui était évoqué autour de la table depuis ce matin, sur comment on redonne des valeurs, du sens à ce qu'on peut faire, soit dans le mouvement, soit dans un endroit, soit dans un ancrage, essaie de trouver une manière de donner un sens et une valeur à ces questions d'immatériel, d'information, de contenu. Et donc derrière, il y a des notions effectivement très frontales aujourd'hui de se dire on développe des logiciels qui sont ouverts où tout le monde peut se les approprier, les modifier, etc., contre des standards qui sont propriétaires et qui sont fermés, qui sont uniquement liés en plus à une logique économique pure et dure. Il y a des logiques qui, et c'était des gens qu'on avait accueillis à la Friche en mai dernier qui venaient de Barcelone, qui a un collectif qui s'appelle Platonique, qui parlait, c'est une espagnolisation d'un terme anglais qui est la sustainabilidad, qui est la notion de développement durable, de temps qu'on se donne et qu'on prend pour fabriquer des choses autour des nouvelles technologies, des lieux qu'on va rendre ouverts en permanence et accessibles. Donc se joue dans ce un peu point nodal que représente le débat autour des logiciels libres, des licences, des DRM, de mesures techniques où on empêche la copie de contenu, etc.
Mais aussi des brevets pharmaceutiques.
Des brevets, etc. Se joue vraiment cette question de l'enfermement, la question de la propriété, la question de la fabrication de la richesse, mais ça a été évoqué. Et c'est les questions qui sont éminemment contemporaines. C'est la question de la vente du comptoir à Kaufmann & Broad, parce que dans un quartier, les artistes ont fait évoluer la valeur du foncier. On est dans ces questions-là, et de manière identique, sur, entre guillemets, un patrimoine plus immatériel, mais pas moins immatériel qu'un texte, ou qu'une musique, ou qu'une partition. Et voilà, on essaie de trouver aujourd'hui et un certain nombre de... gens, dont une personne qui s'appelle Laurence Lessig, qui est un prof de droit aux États-Unis, qui a écrit un gros bouquin qui s'appelle Free Culture, qui est disponible sur Internet, essaie de trouver d'autres manières de travailler, de donner une valeur sociale, culturelle, artistique à la relation entre les gens de ces nouveaux types de contenus, de ces nouvelles manières de produire les choses.
Bien, on arrive au terme de cette émission. Alors, je ne sais pas si Sophie, tout à l'heure, tu voulais réagir, je ne sais plus. Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose pour terminer?
Juste par rapport à ce qu'il disait, ouais. Je trouve qu'il y a une espèce d'héritage de ce qu'on a appelé la contre-culture des années 60, fin des années 60 et début des années 70. Je pense qu'il est intéressant de remettre en œuvre en ce qui concerne tout ce qu'on dit, quoi. Je crois qu'il y avait, il y a quelque chose de très fort. Il y avait quelque chose qui s'était ébauché là, qui venait aussi des États-Unis à l'époque, et qui avait vraiment traversé l'Europe aussi, en Italie et en France, et en Angleterre. Il y a eu toute l'histoire de la musique, mais aussi d'autres types de comportements, et d'une certaine manière de se révolter de manière positive. Voilà, par rapport à des enfermements ou des logiques qui sont souvent des logiques marchandes contre lesquelles on s'insurge. Voilà.
De changer, moi je trouve que c'est un des points clés, c'est dans ces années 60, la manière dont on a imaginé qu'on pouvait réorganiser les hiérarchies dans notre société, de manière globale, et toutes les hiérarchies, c'est-à-dire ces dimensions verticales et horizontales. Je trouve qu'il y a quelque chose de fort de ces endroits-là.
Merci d'avoir été à l'écoute. On arrive au terme de cette émission qui s'appelait Inventer hors les murs. Je vous rappelle qu'on était en compagnie d'Emmanuel Vergès, responsable de Zinc ECM, de Hendrik Sturm, promeneur, de Yves Fravriga, metteur en scène, de Sophie Catala, ex-administratrice de l'épicerie, et de Jean-Pierre Mouler, qui est à la scène nationale du Merlin. Je ne me rappelle plus de tout l'intitulé de la fonction. Demain, ça sera la suite et la fin de cette thématique hors les murs sur Radio Grenouille, avec une émission qui témoignera plus précisément des grandes difficultés et des multiples fermetures que subissent depuis plusieurs mois les centres sociaux à Marseille. Une émission qui sera réalisée par Pascal Messaoudi. Bonne soirée, bon week-end à tous. Salut.